Gloire au Seigneur, bonjour à vous tous. J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu ce matin pour faire une lecture qui sera relativement longue, mais nécessaire, dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Genèse, chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant ? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela ne m'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 pour 5. Détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. On va demander au Seigneur de nous aider dans la méditation de sa parole. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, et nous venons de lire dans ta parole comment tu es aussi attentif à ce que des êtres humains aussi faibles que nous, nous pouvons faire monter vers toi comme intercession et comme prière. Seigneur, je te prie de nous aider ce matin, afin que nous puissions retirer un profit de la méditation de ta parole que nous venons de lire. Aide mes frères et sœurs ici présents, aide-moi également. Nous avons tous besoin de toi. Et surtout, ce que nous réclamons, c'est cette onction qui nous permet de saisir ce que tu nous enseignes et puis ensuite de le vivre. Alors Seigneur, nous comptons sur ta grâce et nous te remercions pour la fidélité avec laquelle tu nous traites. À toi la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, j'aimerais pendant quelques instants ce matin montrer au travers de la parole de Dieu combien le Seigneur est fidèle pour faire grâce à tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère, avec un cœur vrai et authentique. Et c'était bien sûr le cas d'Abraham qui se tenait, comme vous avez pu le constater en lisant ce texte avec moi, à l'entrée de sa tente. Il était là pendant la chaleur du jour, nous dit le texte, et il attendait quelque chose. C'est un peu comme s'il était dans la spectative, il était dans ce moment où il s'attendait à une manifestation particulière. Et je vais vous dire pourquoi. Cet homme a eu cette grâce de voir l'Éternel s'approcher de lui. La Bible déclare que 3 personnes se sont trouvées autour de lui pendant ce moment de méditation. Et nous découvrons par les versets qui suivent que ces 3 personnes sont une manifestation de la Trinité. Et le Seigneur lui-même était là, à côté d'Abraham, et lui a pourtant quelque chose de rafraîchissant pour son cœur, de rafraîchissant pour son âme. Peut-être que quelqu'un ici, ce matin, dit « C'est une expérience formidable qu'Abraham a faite. » Et j'aimerais bien que, pour moi aussi, le Seigneur se révèle, se manifeste de cette même manière. D'abord, je vais commencer par vous dire quelque chose qui n'est pas évident au premier abord. D'abord, vous avez remarqué, Abraham se tient à l'entrée de sa tente. Mais dans le chapitre 19, il est parlé d'un autre homme qui est le neveu d'Abraham. Il s'appelle Lot. Et juste au premier verset aussi, il est dit ceci, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. » Essayons d'établir la différence qui existe entre ces deux hommes. L'un est assis à l'entrée de sa tente, de sa tente. L'autre est assis à la porte de Sodome. L'un reçoit la visitation de Dieu. L'autre, il est visité par deux anges. Mais il n'a aucune révélation sur le futur. Ce que Dieu apporte comme révélation qui est admirable, c'est Abraham qui en a le bénéfice. Mais Lot ne connaît pas la même expérience. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Vous savez, mes chers frères et sœurs, notre intérêt à chacun d'entre nous, c'est de veiller à la porte de notre cœur. Vous vous souvenez? Comment dans ce même livre de la Genèse, au moment où il y a eu la chute de l'homme, et puis ensuite le terrible crime qui a été commis par Caïn contre Abel, à un moment donné, Dieu a visité Caïn et il lui a dit ceci, « Le péché couche à ta porte ». Si tu agis bien, tu te relèveras. Vous savez que Caïn avait offert un sacrifice qui était le fruit de son travail, tandis que Abel avait offert un sacrifice d'un animal, ce qui était le symbole déjà de ce que Christ allait accomplir plus tard pour le salut de l'humanité. Et la Bible nous dit que l'offrande d'Abel a été agréée et ce que Caïn a présenté a été rejeté. Mais Dieu voulait quand même aider Caïn et il lui a dit « Le péché couche à ta porte ». Et il l'avait appelé à veiller. Il a dit « Si tu agis bien, tu te relèveras ». Bien voyez-vous, mes frères et sœurs, la Bible nous exhorte les uns et les autres à veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose. Parce que la parole de Dieu déclare que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et nous avons besoin de nous tenir devant Dieu dans un état de vigilance. Tous, nous sommes conscients que nous sommes dans un temps qui est particulièrement difficile. Tous, nous sommes conscients que nous sommes au sein d'une génération où le mal va croissant. Tous, nous sommes conscients qu'au sein même de ce que l'on appelle le peuple de Dieu, il y a toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, en contradiction avec l'enseignement biblique. Et c'est la raison pour laquelle notre intérêt c'est d'être dans cette vigilance. Jésus dit « Veillez et priez ». Or, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 en particulier, il est dit ceci, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. » Et Jésus ajoute ceci, « Si quelqu'un garde ma parole et m'aime, alors je me manifesterai à lui. » Autrement dit, je me ferai connaître plus intensément à lui. Il s'adresse à ses disciples et ce verset, moi, je le trouve particulièrement beau. Vous savez, frères et sœurs, quel que soit le degré d'expérience que nous avons pu faire avec le Seigneur, quel que soit le niveau spirituel auquel nous pouvons nous trouver, nous avons toujours besoin d'une nouvelle manifestation du Seigneur dans notre vie et dans notre cœur. Et il peut le faire quand nous nous tenons comme cela, vigilants, avec un cœur ouvert et réceptif. Et Abraham a dû être richement béni et vraiment fortifié par la manifestation de Dieu qui venait le visiter. Bien souvent, nous entendons cette expression, « Seigneur, visite-nous ». Le Seigneur est toujours avec nous et nous sommes conscients qu'il a fait sa demeure en nous, que nous, nous demeurons en lui. Mais même dans une telle situation, nous avons besoin de progresser avec lui parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, il peut se révéler encore mieux à nous. Il peut encore nous donner la possibilité d'avoir une meilleure compréhension de qui il est et de ce qu'il est capable de faire. Et dans ces moments où nous sommes dans nos moments de méditation personnelle, dans nos moments d'intimité avec le Seigneur, visités comme cela par l'action souveraine du Saint-Esprit, il peut se passer en nous quelque chose, ce qui s'est produit d'ailleurs dans le cœur d'Abraham. Il n'a pas pu rester indifférent devant cette visitation et immédiatement, il a fait une proposition. Dans le fond, la visitation l'a conduit à la consécration. Et comment se manifeste cette consécration? Eh bien, il a parlé à Dieu simplement et il a dit « Permets-moi d'aller chercher un peu d'eau pour vous laver les pieds ». D'ailleurs, c'est curieux parce que des fois, il parle au pluriel, des fois, il parle au singulier. C'est vraiment là Dieu, n'est-ce pas, manifesté en trois personnes, même si le terme de Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Ça, nous le croyons. Nous croyons en un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, il lui dit simplement ceci. Il lui propose un moment de rafraîchissement. Bien sûr, nous sommes bien conscients que Dieu est bien au-dessus de cela. Mais ce qu'il fait là est un geste qui est agréable, d'autant plus qu'il accompagne de cette autre parole, « Je vais préparer un morceau de pain ». Si vous prêtez attention, dans l'évangile de Jean, il y a ces deux choses qui se trouvent aussi côte à côte. Le lavage des pieds, au chapitre 13 de l'évangile de Jean, et un peu plus loin, il y a le moment de la Sainte Cène, le moment où l'on rompt le pain ensemble. Ces deux choses sont indispensables dans la vie chrétienne. Nous avons besoin d'être lavés par l'eau pure de la parole. Entendons bien ce que je dis. Frères et sœurs, comme le texte qui se trouve dans Jean le déclare, celui qui a été lavé dans le sang de Jésus l'a été une fois pour toutes. Et on ne revient pas là-dessus. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Cependant, pendant notre marche de tous les jours, eh bien, nous pouvons être contaminés par le mal qui nous entoure. Et chacun de nous sait que par la faiblesse de notre propre nature, car même si nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, nous restons à l'intérieur de nous-mêmes des êtres avec une nature faible, car ces deux choses sont en permanence dans notre vie. La nouvelle nature que nous avons reçue par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, mais en même temps, eh bien, il y a ce corps de mort que nous traînons. Vous vous souvenez de ce cri de l'apôtre Paul, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Nous sommes tous conscients, n'est-ce pas, d'avoir un terrible combat. Et nous savons que pendant notre marche, Il y a des choses qui s'attachent à nous, un moment de colère, un moment d'animosité, un moment d'amertume, peut-être d'autres choses, peut-être même le mensonge, quelquefois même, eh bien, d'autres choses encore plus graves. Et tout cela fait que nous arrivons dans la présence du Seigneur avec des fois une conscience quelque peu lourde, et c'est bon de nous rappeler que la parole de Dieu est là pour nous laver, pour nous purifier. Et quand nous le cherchons dans notre vie personnelle, que nous sommes au pied du Seigneur, alors là, nous avons la possibilité d'ouvrir notre cœur et de lui dire ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que nous n'osons dire lorsque nous sommes dans la communion fraternelle, ce que nous n'osons dire lorsque nous sommes dans la communauté, nous pouvons le dire lorsque nous sommes seuls avec le Seigneur. Et à ce moment-là, eh bien, il vient par le moyen de l'eau de la parole, il nous purifie, il lave nos pieds. Notre cœur a été lavé par le sang précieux de Jésus, mais comme dans notre marche, nous nous sommes souillés, alors il vient dans son amour pour renouveler notre être tout entier et nous donner la possibilité d'aller plus loin et nous fortifier, parce qu'il s'offre lui-même à nous comme étant le pain de vie. Cependant, Abraham a fait cela comme un acte de consécration. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il est allé tout simplement beaucoup plus loin que ce qu'il avait dit à ce Seigneur qui le visitait. Il lui a dit, je vais préparer un pain. Et il a dit à Sarah, vite, 3 mesures de farine et prépare le pain. Mais lui, il est allé dans le troupeau et il a préparé un veau. Moi, je suis toujours surpris quand je médite ce passage. Vous savez, préparer un veau, eh bien, ça demande quand même un certain temps. Vous en conviendrez, n'est-ce pas? Ça n'a pas dû se faire en quelques minutes. Ça a dû demander des heures. C'est quelque chose qui est très long. Mais il a fait cela avec beaucoup de soin et il est venu apporter cela, cette nourriture. Cet acte de consécration-là, nous le trouvons dans la Bible, présenté dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Vous connaissez certainement cette déclaration faite par Paul. « Offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera un culte agréable pour votre Dieu. Offrez vos corps en sacrifice vivant. » Pourquoi un sacrifice vivant? Dans l'Ancien Testament, ce qui était offert en holocauste, c'était des animaux qui étaient mis à mort. Tandis que là, maintenant, Paul nous parle, dans le temps de la grâce, de l'offrande que nous devons faire à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est notre être tout entier que nous livrons, que nous plaçons à ses pieds pour qu'il puisse se glorifier au travers de notre vie. Mes frères et sœurs, offrir son corps, ça veut dire que nous sommes prêts à laisser le Seigneur prendre le contrôle de toutes choses dans notre vie. Vous savez, la main, elle peut être un moyen de chute. Et vous avez lu dans l'Évangile comment Jésus parle. Et il dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Le pied peut être une occasion de chute. L'œil peut être une occasion de chute. Et Jésus dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Le problème que nous rencontrons, vous et moi, c'est que personne ne peut faire une chose semblable. C'est un ordre qui nous dépasse, qui est impossible à réaliser. Je ne peux pas me couper la main, je ne peux pas m'arracher l'œil, mais je peux m'offrir à Dieu pour que par la puissance de son esprit, il me visite de telle sorte que je puisse avoir mon être entier sanctifié. pour que mon œil ne se pose plus sur ce qu'il ne doit pas voir, que ma main ne soit pas capable de faire des œuvres que Dieu n'approuve pas, que mon pied ne marche pas sur une voie qui n'est pas celle du Seigneur, mais que mon être tout entier soit à la gloire de Dieu. Et j'aimerais ajouter une chose qui est importante. L'apôtre Jacques parle d'un petit membre de notre corps qui est tellement agile, tellement petit, mais qui peut faire de grands ravages. Et ce membre de notre corps, nous le connaissons bien, n'est-ce pas ? C'est la langue. Et la langue, elle peut servir à la gloire de Dieu, ou alors elle peut être à la disposition de l'ennemi de notre âme pour faire un mal terrible. Vous voyez, mes frères et sœurs, l'acte d'Abraham est important pour nous. Le moment de la visitation a été le moment pour lui où il a senti qu'il fallait se consacrer, qu'il fallait se livrer. Mes frères et sœurs, plaise au Seigneur de nous conduire dans nos moments individuels, personnels, de recherche de sa face, dans une telle intimité avec lui, que nous laissions le Saint-Esprit travailler au fond de nous-mêmes, non seulement visiter notre âme, notre esprit, mais aussi notre corps, notre être tout entier, pour qu'il soit sanctifié et qu'il serve à la gloire et à la louange de Dieu. Après s'être consacré de cette manière-là, alors Dieu a pu apporter une confirmation à Abraham d'une promesse qu'il avait déjà faite, qu'il avait déjà prononcée, la promesse d'avoir une descendance, la promesse d'avoir un fils. Et vous avez remarqué, c'est juste après cet acte de consécration que le Seigneur demande à Abraham « Où est Sarah, ta femme ?» Et avec une certaine légèreté, il dit « Oh, ben, elle est là, dans la tente. » Et le Seigneur va lui parler à nouveau et lui dire « Sarah, ta femme, aura un fils. » La Bible me dit que Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était juste derrière le Seigneur qui parlait. Et elle a ri, parce que pour elle, ça semblait être une impossibilité. Nous le comprenons fort bien. Avancée en âge, n'ayant plus la possibilité d'avoir des désirs comme elle exprime elle-même, comment naturellement elle pourrait avoir un enfant, un fils? Ça semblait une impossibilité totale. Et d'ailleurs, le Seigneur a repris Sarah parce que son rire était le rire de l'incrédulité. Et le Seigneur en a profité pour lui dire « Y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de Dieu ?» Ça, nous ferions bien de le garder précieusement dans notre cœur ce matin. Quand nous nous trouvons devant certaines impossibilités dans notre vie, quand nous nous trouvons devant des faits qui nous semblent insurmontables, devant des situations impossibles, réfléchissons à cette parole. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour notre Dieu ? Sarah a eu le rire de l'incrédulité, mais notez en passant que dans le chapitre précédent, par contre, au moment où, justement, Dieu a fait la promesse directement à Abraham, lui aussi a ri. Mais voyez-vous, ce n'est pas le même rire que sa femme. Quand on reçoit dans le fond du cœur une promesse, la certitude que Dieu va accomplir quelque chose selon ce qui est écrit dans la parole, Est-ce que ça ne vous est pas arrivé d'avoir une sorte de joie intérieure profonde? Même peut-être parfois, vous avez aussi ri en découvrant la bonté, la fidélité de Dieu, en découvrant que le Seigneur est toujours prêt à accomplir ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il y a donc le rire qui est le résultat d'une joie intérieure profonde, parce qu'on a saisi que Dieu va faire, et on n'en doute pas, ce qu'il a promis. Et puis il y a le rire, qui est le rire de l'incrédulité, le rire du doute, c'est celui qu'avait Sarah. Mais il n'empêche pas moins que cette promesse pour Abraham, même renouvelée et directement pour Sarah, ça a été un baume pour le cœur d'Abraham. Et mes frères et sœurs, nous aussi nous avons besoin d'avoir la confirmation que ce que Dieu dit, il va le faire. Parce que nous avons tendance bien souvent à négliger certaines promesses que Dieu nous a faites. C'est la raison pour laquelle, des fois dans notre vie, nous avons besoin d'être renouvelés dans la certitude que Dieu est fidèle et qu'il va faire ce qu'il a dit. Par exemple, en prenant la Sainte-Seine ce matin, eh bien, nous avons été renouvelés dans cette pensée que le Seigneur revient bientôt. Puisque la Bible dit que lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Nous sommes comme cela, renouvelés dans la certitude, même si tout semble nous dire, mais que fait le Seigneur? Il tarde. Est-ce que c'est encore vrai ce qu'il a dit? Intérieurement, tous les authentiques et véritables chrétiens savent que ce qu'il a dit, il va le faire. Or, pour nous, il y a des riches bénédictions dans la personne du Seigneur. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Qu'en lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ces bénédictions-là, elles sont pour nous. Il y a des choses que Dieu va accomplir, que Dieu va faire. On ne peut pas se contenter de continuer dans une vie spirituelle médiocre. On ne peut pas se contenter de continuer dans une marche qui est un peu faible. On ne peut pas se contenter de connaître une vie d'église médiocre. On ne peut pas se contenter de connaître une certaine tiédeur dans la louange, une certaine tiédeur dans notre marche avec lui, une infidélité manifeste. On ne doit pas se contenter de cela. Mais Dieu est là pour nous promettre que si nous le cherchons, lui, eh bien, il va se laisser trouver et il va nous accorder tout ce qui est promis en Jésus-Christ. Non pas à cause de ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle cette sorte de classification entre fidèle et infidèle, saint et moins saint, bien, moi je ne la connais pas. En fait, nous sommes tous cachés en Jésus-Christ. Et dans la mesure où nous sommes cachés en Jésus-Christ, eh bien, toutes les promesses qui sont contenues en lui, elles sont pour nous. Heureusement que Dieu ne tient pas compte de ce que nous sommes par nature. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avancer avec lui. La confirmation que Dieu est juste, fidèle et bon, c'est pour nous. Et nous devons savoir, comme certains l'ont demandé ce matin, que le temps des miracles n'est pas terminé. Que le temps où Dieu va faire des guérisons n'est pas terminé. Que le temps où il baptise du Saint-Esprit n'est pas terminé. C'est encore pour nous aujourd'hui. Et nous avons besoin d'avoir cette confirmation dans le fond de notre cœur. Cherchons ensemble le Seigneur. Et il mettra des convictions profondes en nous. C'est quoi la foi? Eh bien, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, de cette étape-là, Abraham va passer à une autre. Je l'appelle l'étape de la confidentialité. C'est-à-dire ce moment précieux où il y a une telle relation entre Dieu et Abraham que Dieu va lui confier certaines choses, lui révéler certaines choses. Je vous ai dit au commencement de cette méditation, Abraham, il a eu cette révélation que Lot n'a pas eue. Lot, assis à la porte de Sodome, il avait les honneurs des gens de ce monde. Et d'ailleurs, la Bible ne dit pas que Lot n'était pas juste, bien au contraire. Elle dit que Lot était juste, mais il souffrait même à l'intérieur de lui-même, de tout ce qu'il voyait, de tout ce qu'il pouvait entendre, mais il n'avait pas la force de s'en séparer. Et vous voyez la raison pour laquelle il y a une différence entre Lot et Abraham, c'est qu'Abraham, lui, a choisi de vivre avec Dieu, se séparant de tout ce qui est secondaire, qui n'a pas d'importance, la gloire de ce monde, la mondanité, les choses de cette terre n'accaparaient pas son esprit. Il était là dans l'attente d'une véritable et authentique relation avec Dieu. Et comme il était en relation avec Dieu, Dieu pouvait lui ouvrir son cœur et lui dire ce qu'il allait faire. C'est formidable. Il dit simplement ceci, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Mais en même temps, il lui révèle ce qui va se passer pour Sodome et Gomorre. Mes frères et sœurs, il y a de grandes bénédictions pour le peuple de Dieu. Il y a des choses terribles qui attendent ce monde. Il y a des choses formidables pour tous ceux qui ont l'espérance de la vie éternelle, pour tous ceux qui espèrent en Christ. Mais il y a des choses redoutables, inquiétantes, terrifiantes, qui attendent, qui sont plutôt pour ce monde, qui vit dans la plus grande des indifférences à l'égard de Dieu. Vous savez, quelquefois on entend dire « ça ira mieux demain ». Et certains prédicateurs disent « ça ira mieux, vous allez voir, ça ira mieux ». Je vais aller en sens inverse, remonter le courant dans notre sens, pardonnez-moi, mais je vais vous dire « non, ça ira pas mieux, ce sera pire ». J'entends quelqu'un, il le pense si fort que je l'entends ici, et il se dit « mais... pour entendre une chose pareille, j'aurais mieux fait de ne pas venir ce matin. » Mais c'est vrai, ça n'ira pas mieux dans le monde. Mais nous aurons d'autres tribulations, mais nous aurons d'autres épreuves, mais nous aurons d'autres difficultés. Le Seigneur n'a pas promis une vie faite de choses agréables. Il y a des choses formidables et merveilleuses dans le Seigneur, mais avec aussi les épreuves et les tribulations. Écoutez Jésus parler, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Il y a donc là quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Les gens de ce monde ne savent pas ce qui les attend. Ceux qui vivent loin de Dieu n'ont pas la connaissance ni la révélation de ce que la Bible nous donne de la part de Dieu comme révélation. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et il y a des choses qui sont pour nous, le peuple de Dieu. Et c'est bien quand nous acquérons une connaissance toujours plus grande du plan de Dieu, de ce que lui-même a établi comme plan. Et nous pouvons discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement le privilège d'Abraham, c'est le privilège de tous ceux qui le cherchent avec sincérité, de recevoir le discernement de ce qui va se passer, et aussi comment nous devons nous conduire dans ce temps tellement difficile. Et Abraham a répondu Au moment où Dieu lui a fait cette confidence, eh bien, il a commencé à intercéder. Je reprends. Abraham a eu la manifestation de Dieu. Ensuite, il s'est consacré. Après la consécration, il a eu la confirmation de la promesse. Après la confirmation de la promesse, eh bien, le voilà. Il a Dieu comme confident. Et Abraham est comme un ami de Dieu à qui on ne cache rien. Et puis, maintenant, il en arrive à l'intercession. C'est important parce que d'un seul coup, Abraham réalise, mais si tout ça va être le partage de Sodome et Gomorre et des habitants de Sodome et Gomorre, et il ne pouvait pas faire autrement que de penser aussi à celui qu'il aimait dans le fond de son cœur. Vous vous souvenez? Il y a eu une séparation entre Abraham et Lot. Parce qu'entre les bergers de l'un et de l'autre, il y a eu des disputes. Et Abraham a demandé à Lot de faire un choix. Et Lot a choisi ce qui, humainement parlant, était plus agréable, ce qui frappe les regards. Abraham lui a dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Pour Abraham, ce qui importait, ce n'était pas le lieu où il allait être, mais c'est d'être en relation avec Dieu. Peu importe où nous habitons, peu importe où nous sommes, mais ce qui est important, c'est de vivre avec Dieu. C'est d'être caché en lui. C'est d'être caché en Christ. Et là, alors, il comprend combien il est important d'intercéder pour ceux qui vont mourir, pour ceux qui vont faire l'objet de l'exercice du jugement de Dieu. Alors, il commence et il dit, « Ô Éternel, est-ce que tu vas faire mourir le juste avec l'injuste, le méchant avec celui qui te reste fidèle ?» Et il dit, « Mais Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville de Sodome, est-ce que tu vas faire périr tous ces 50 justes ?» Et Dieu lui dit, « Non, si je trouve 50 justes, je ne toucherai pas à la ville. » Alors, il prend courage, il s'enhardit, et il dit, « Mais Seigneur, s'il en manque 5, seulement 5, c'est-à-dire s'il en reste 45 justes, est-ce que tu vas exercer ton jugement ?» Et Dieu dit, « Non, s'il y en a 45, je ne toucherai pas à la ville. » Alors, Abraham insiste encore, vous voyez, la lutte, le combat dans l'intercession. « Seigneur, s'il y en a 40 !» Et le Seigneur dit, « S'il y en a 40, je ne toucherai pas. » Et il ose dire, « Je regrette, j'ai parlé avec toi, Seigneur, et je ne suis que cendre, mais je t'en supplie, s'il y en a 30, est-ce que tu vas toucher les 30 ?» Et il dit, « Non, s'il y en a 30, je n'exercerai pas mon jugement. » Alors, je ne parlerai plus que cette fois. C'était déjà pas mal, hein. Il y en a d'autres qui se seraient fatigués par notre Dieu, hein. Et heureusement. Il dit, mais s'il y en a 10, est-ce que tu vas faire mourir tous ces gens-là pour justement faire comme ça un acte presque d'injustice, il a l'air de dire, entre les justes et les injustes, il y en a 10, sauve la ville pour ces 10. Et il dit, s'il y en a 10, je ne toucherai pas. Il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là. Mes frères et sœurs, réfléchissons à quelque chose. Abraham s'est arrêté parce qu'il était dans une époque où, même s'il était allé jusqu'à un seul juste, il n'y en aurait pas eu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Mais tous ont péché. Mais nous, nous sommes au temps de la grâce. Alors comprenez la différence avec Abraham. Nous, nous pensons à ce qui attend ce monde, notre génération. C'est la raison pour laquelle je dis, l'Église doit reprendre l'orientation de la véritable évangélisation. Je ne veux pas que cette église soit pleine de monde. Je veux que ceux qui doivent être sauvés le soient. On ne doit pas travailler ni pour une dénomination, ni pour une communauté. Ce n'est pas le nombre de personnes qui est important, mais c'est que des pécheurs passent de la mort à la vie et soient sauvés. Peu importe l'étiquette, mais qu'il y ait des nouvelles naissances, de véritables régénérations. Alors nous pouvons aller jusqu'au bout. Savez-vous pourquoi? Parce que nous savons qu'il y en a un qui a été sans péché. Et celui-là, nous le connaissons. Nous lui avons rendu hommage ce matin. Nous lui avons rendu honneur. Nous l'avons loué et nous l'avons glorifié parce qu'il est l'auteur de notre salut. Et nous savons quel prix il a payé. Alors maintenant, nous pouvons invoquer Dieu et lui dire au nom de ton Fils bien-aimé, non pas à cause de nos mérites, non pas à cause de ce que nous sommes, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non pas parce que nous sommes une église extraordinaire, particulièrement bénie, non mes frères et sœurs, mais au nom de Jésus-Christ, il faut que nous nous mettions à l'œuvre et que nous invoquions son nom, que nous prions pour qu'il attire les hommes à lui. Vous savez, le meilleur des discours n'arrivera pas à convaincre quelqu'un. Je suis plus que jamais persuadé que le meilleur des messages, s'il n'est pas accompagné de l'action du Saint-Esprit, n'aura aucun effet sur un cœur ou sur une âme. C'est seulement le Saint-Esprit qui a le pouvoir de convaincre de péché, de justice et de jugement. Oh, si nous pouvions comprendre, mes frères et sœurs, que nous devrions reprendre la voie de l'intercession sur le plan personnel, sur le plan collectif, intercéder, non pas avec des vues ou des ambitions, je dirais avec des objectifs qui sont égoïstes. Ah, nous devons réfléchir à cela, parce que bien souvent ce que nous voulons c'est la gloire d'une église, la gloire un petit peu d'un groupe. Non, il faut abandonner cela. Il faut avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Et si le Seigneur, lui, se met à l'œuvre par son esprit, alors la Bible dit, nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et nul ne vient aussi au Seigneur si le Père ne l'attire. Et quand est-ce que cette attraction se fait? Quand une église intercède, quand une église se tient à genoux et qu'elle lutte dans le nom de Jésus pour que, effectivement, comme je l'ai entendu ce matin, les démons soient chassés, les mauvais esprits soient chassés, que les malades soient guéris, que également les captifs et les esclaves de la puissance du mal et du péché soient délivrés. Nous avons besoin de revoir tout cela. J'ai besoin de revoir tout cela. Je ne suis pas meilleur que les autres. Mais avec vous, je veux prier, je veux travailler et je veux ensemble que nous puissions voir le Seigneur agir au milieu de nous. Pas un homme, mais le Seigneur. Pas un individu, mais le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui règne au milieu de son Église. C'est lui qui est la tête de l'Église. Alors, ayons confiance en lui et le Seigneur. Lui, il va répondre favorablement parce qu'il a fait pour d'autres et il nous aime d'un amour qui est éternel. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, montre-nous la voie chaque jour. Montre-nous comment nous devons nous tenir devant toi et nous attendre à ton secours seulement. Je te prie pour mes frères et sœurs, sans exception, Seigneur, pour que réellement dans leur cœur et dans leur vie, comme dans le mien, ô Dieu, il y ait ce travail profond de ton esprit, nous amenant à une telle intimité avec toi, que lorsque nous allons pouvoir parler à ceux qui nous entourent et qui ont besoin d'être sauvés et régénérés, il y ait un tel impact dans leur vie que ta gloire soit manifestée. Seigneur, nous comptons sur toi. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui est vraiment merveilleux. Et notre espoir, comme notre espérance, eh bien, est placé en toi. Je te loue pour ce que tu as été jusqu'à ce jour et ce que tu seras jusqu'à la fin, parce que toi, tu ne changes pas. À toi la gloire, Seigneur. Amen.